Radio Kapi. Oh, Kapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. Conditions de vie alarmantes pour les populations vivant dans les zones sous contrôle du M23 dans le Nord Kivu. Elles n'ont pas accès aux services de base et sont exposées aux maladies, notamment à Mweso. L'alerte est de Médecins sans frontières MSF qui présente cette situation. Pour en parler, nous recevons Marie Brun, coordonnatrice des urgences chez Médecins sans frontières. Le bureau provincial de l'UDPS en Ituri dénonce la corruption lors de l'élection des sénateurs la semaine dernière à Bunia. Aucun candidat de ce regroupement politique n'a reçu de voix. Cependant, certains députés provinciaux, dont l'un de l'UDPS, sont menacés par les candidats malheureux à cette élection. Voilà tout pour les titres. Madame, Messieurs, bonjour. Encore une fois, bienvenue à ce journal qui part du Nord Kivu. Dans les zones sous contrôle du M23, les populations sont très vulnérables. Plusieurs personnes ne vivent pas dans leur village d'origine. Elles ont déjà fui plus d'une fois et se regroupent dans des milieux qu'ils jugent plus sécurisés. Mais même dans ces milieux, le niveau de vulnérabilité est très élevé. Ces populations n'ont pas accès aux services de base. Elles sont exposées aux maladies comme le paludisme qui touche actuellement les populations regroupées à Mweso. C'est l'Organisation internationale Médecins sans frontières, MSF, qui présente cette situation. Elle invite toutes les parties impliquées au respect du droit international humanitaire afin de faciliter la prise en charge des populations civiles. Revenons sur la situation de ces populations avec vous, Rosalie Zawadi.
Dans les secteurs de Kibirizi, Bambou, Mweso et Rutshuru, les populations déplacées sont dans une situation de grande vulnérabilité. L'alerte est de l'organisation Médecins sans frontières au Nord Kivu qui intervient dans ces zones sous contrôle du M23. Natalia Torrent, chef de mission des MSF au Nord Kivu, parle des conditions des populations déplacées dans la zone en général et autour des Mweso en particulier.
Ce qu'on voit, c'est que des vagues de populations en mouvement, de populations que c'était forcé à bouger plus d'un fois. Alors, ce qu'on voit, c'est des populations assez vulnérables. La population que c'était dans les alentours de Mweso, on a constaté que le niveau ou les cas de choléra, ils ont incrémenté. Maintenant, on est en train de gérer un crise palou assez grand parce que, comme vous comprenez, cette population s'en abrite. La majorité, ils sont un peu exposés surtout à la maladie infectieuse et maintenant on est en train de gérer une grande crise palou que ça touche surtout les enfants.
Pour l'organisation MSF, la situation sécuritaire actuelle qui ne fait que s'aggraver ne facilite pas l'intervention en faveur des populations déplacées dans la zone. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Kapi.
Pendant ce temps, des violents combats opposent l'armée congolaise aux rebelles du M23 ce mardi sur l'axe Burundu-les-Mirangi. C'est entre Kikuku et Kanyabayonga, dans la chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru. Nous sommes toujours au Nord Kivu. Selon des sources sur place, des tirs d'armes lourdes et légères sont entendus dans cette zone depuis 9h locales. Elles parlent de bombardement des FARDC qui empêcherait l'avancée des rebelles vers Kanyabayonga. En effet, c'est depuis 3 jours que des affrontements sont signalés dans cette zone complètement vidée de habitants. Par ailleurs, la situation est relativement calme autour du village Chacha, dans le sud du territoire de Masisi. C'est après des violents combats dans la matinée d'hier lundi, dans la zone qui est toujours occupée en grande partie par les rebelles. Du côté du territoire de Beni, nous apprenons que 4 civils ont été tués dans une nouvelle attaque attribuée aux ZDF lundi à Koudoukoudou, un village situé à 25 km de Beniville, ce qui porte à 18 le nombre des civils tués depuis le week-end dans différentes attaques des ZDF dans la région. La société civile locale parle d'un bilan encore provisoire et appelle au renforcement de la présence de l'armée. Reportage de Marc Marofimbo.
C'est le lundi, à la tombée de la nuit, que les ZDF ont de nouveau attaqué Koudoukoudou. Ce matin, 4 corps de civils tués, dont 3 hommes identifiés comme les habitants d'Embaoulinzo, ont été découverts dans ces villages. Des jeeps des FARDC qui étaient en patrouille de combat dans la zone ont été également incendiés par les assaillants. Le week-end dernier, les ZDF avaient déjà attaqué Koudoukoudou, où ils avaient tué 14 civils et incendié plusieurs maisons. Pour l'instant, la zone est abandonnée par la population qui s'est déplacée vers les localités d'Embaou et Mundubiena. La société civile locale rapporte un mouvement des rebelles des ZDF entre Koudoukoudou et Mandoumbi. Elle appelle à un renforcement de la présence des FARDC dans la région. Nous n'avons pas eu la réaction de l'armée à ce sujet. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Sud Kivu, une importante délégation humanitaire séjourne à Bukavu depuis hier. Elle est conduite par le coordonnateur résident du système des Nations Unies, Bruno Lemarquis. Lors de sa rencontre avec le gouverneur intérimaire de la province, les deux parties ont tablé sur les initiatives à mettre en place pour une transition post-MONUSCO. On écoute Bruno Lemarquis.
La MONUSCO est partie. Certaines des tâches de la MONUSCO ont été transférées au gouvernement congolais. En ce qui concerne la sécurité, la protection des civils, les droits de l'homme, le renforcement des institutions, l'appui au PDDRCS, etc. Mais les partenaires sont là pour aider les agences des Nations Unies, les coopérations bilatérales, multilatérales, les ONG, la société civile. Tout le monde veut que ce soit une réussite. Tout le monde doit se mobiliser pour aider les institutions congolaises. Donc cette visite, elle a lieu dans ce cadre-là. C'est pour que tous ces partenaires se rendent compte d'eux-mêmes sur terrain. Pendant une semaine, on est là jusqu'à vendredi, à travers de nombreuses conversations avec tous les partenaires, comment est-ce qu'on peut appuyer le mieux possible pour que cette transition soit une réussite, que de cette transition on tire des leçons positives pour la transition au Nord Kivu, puis pour la transition en Ituri, mais aussi pour des transitions de missions des Nations Unies qui se retirent dans d'autres pays.
La délégation est composée d'une vingtaine de partenaires techniques et financiers, parmi lesquels les agences du système des Nations Unies. Et puis, plus de 6000 déplacés vivent dans des situations difficiles dans les localités de Chintumwanza, Chimeta et dans les foyers agricoles du groupement de Bajila-Kasanga dans le territoire de Lupatapata. Nous sommes au Kasaï oriental. Ces déplacés ont fui les affrontements qui ont opposé depuis bientôt 3 semaines la communauté Basongé à celle de Bakwaluntu dans le territoire de Dimbelenge au Kasaï central. L'administrateur du territoire de Lupatapata lance un cri d'alarme auprès des autorités provinciales, nationales et aux organismes internationaux afin de venir en aide à ces déplacés qui passent la nuit à la belle étoile. L'administrateur Alidor Malumba, joint par Esther Ndalafina.
Il y a des hommes, femmes et enfants, environ 6 000. Donc ce sont des familles qui se sont déplacées. Ils sont venus se réfugier chez nous. Les autres sont encore là. Vous savez les conditions de vie. Les réfugiés, ils ont tout perdu. Leurs champs ravagés, leurs bêtes emportées, ils ont tout perdu. Même les habits, ils n'ont rien. Vous voyez, les gens qui faisaient les travaux champêtres, ils ont abandonné leurs champs pour venir se réfugier chez nous. Vous savez comment ils ont pris? J'avais informé la hiérarchie pour qu'ils soient assez. Alors, l'assistance est loin. Ils ne sont pas assistés. Aucun organisme n'a choisi à assister ces gens. Nous demandons qu'on les assiste d'assistance humanitaire. Ils peuvent venir à la belle étoile, ils n'ont pas de bâche pour se réfugier, à manger, c'est difficile. On a fait des plaidoyers, on a informé partout. Il n'y a pas d'assistance.
Dans l'actualité aussi, près de 70 officiers des FARDC partagent depuis hier des stratégies et expériences en vue de la professionnalisation au sein de l'armée congolaise. Ce séminaire est organisé au Centre supérieur militaire de Kinshasa par le commandement général des écoles militaires des FARDC avec un appui de la division de la réforme du secteur de sécurité de la MONUSCO avec comme thème optimisation de la formation professionnelle au sein des FARDC. Le séminaire va jusqu'au samedi 1er juin prochain. Des détails dans ce reportage de Billy Van Lutumba.
En initiant ce séminaire, l'état-major général de l'armée entend renforcer le pilier formation comme base pour une performance plus accrue des FARDC. C'est ainsi que les commandants de toutes les 36 écoles et centres d'instruction et d'entraînement sont conviés à cette formation. Les résultats attendus à l'issue de cet atelier faciliteront dans la foulée l'alignement de la formation militaire sur les doctrines spécifiques des forces et des corps ainsi que l'harmonisation des programmes d'études et formation. D'après le directeur de la division de la réforme du secteur de la sécurité de la MONUSCO, l'assistance au niveau stratégique et technique à la réforme du secteur de la sécurité est une priorité dans le mandat de la MONUSCO tel que présenté dans la résolution 27-17 de décembre 2023. Ce séminaire s'inscrit également en droite ligne des conclusions de l'évaluation du plan de réforme de l'armée tenu en juillet 2023. Cette évaluation avait fait ressortir les besoins des forces en matière d'infrastructures, d'équipements et des matériels didactiques, mais avait surtout souligné la nécessité de former des formateurs et des personnels dans des métiers spécifiques.
Et puis, une église congolaise dans un état congolais, c'est le thème d'un colloque interdisciplinaire aux Verrières et qui se poursuit jusque demain mercredi à la cathédrale Notre-Dame du Congo à Kinshasa. Ce colloque réunit plusieurs professeurs d'université, les laïcs catholiques et les religieux pour réfléchir sur de nombreux sujets relatifs au rôle de l'église dans un état, la mission prophétique de l'épiscopat de la RDC dans l'espace sociopolitique. Ce, 35 ans après le cardinal Joseph Albert Malula. Direction l'Ituri, le bureau provincial de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS dénonce la corruption lors de l'élection des sénateurs la semaine dernière à Bunia. Aucun candidat de ce regroupement politique n'a reçu une voix sur 9 députés que compte l'UDPS en Ituri au profit d'autres candidats qui ont donné de l'argent, affirme ce parti. Certains députés provinciaux, dont l'un de l'UDPS, sont menacés par les candidats malheureux à cette élection. Ce parti politique dit avoir introduit une demande au procureur près la cour d'appel pour des enquêtes. Isaac Remoyope.
Le regroupement UDPS 4AC a aligné 4 candidats à l'élection des sénateurs en Ituri avec l'espoir d'avoir au moins un siège pour les 9 voix des députés provinciaux de cette plateforme. Son directoire dit avoir été surpris de constater que ces candidats ont eu 0 voix. Ces députés ont plutôt voté pour les candidats qui leur ont donné de l'argent au mépris des compétences et de la méritocratie pour représenter valablement la province de l'Ituri. Parmi eux, l'un a été agressé par l'équipe de la campagne électorale d'un candidat malheureux qui lui a ravi le véhicule au marché central de Bunia. Le secrétaire fédéral en charge des départements de justice et droits humains déclare que d'autres députés subissent également des pressions et des menaces d'autres candidats qui ont échoué à cette élection pour les sommer de remettre leur argent. Il demande à la justice, qui est déjà saisie des présomptions de corruption, d'ouvrir les enquêtes. L'issier Loteni.
Nous avons 9 députés, mais on n'a pas réussi même à avoir une voix par candidat. Ce qui prouve à suffisance que les députés ont choisi voter pour l'argent et non choisi pour la méritocratie. Ce que nous venons de vivre aujourd'hui à l'élection sénatoriale, c'est plus pire parce que encore à l'élection du gouverneur, ça sera encore au-delà. Nous demandons ici au procureur général, près la cour d'appel de l'Ituri, d'ouvrir une enquête quant à ce.
Le procureur général, près la cour d'appel de l'Ituri, a promis de réagir dans les prochaines heures. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Rendons-nous au Congo central. La première phase des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 12, axe Manterne-Tchela-Singini, touche à sa fin. Ces travaux avaient été lancés au mois de juillet 2023 par le ministre des Infrastructures, Alexis Guissaro, l'ingénieur Jean-Pierre Voulalo, délégué de l'Agence nationale des grands travaux, qui l'affirme, précise que la couche d'asphalte sera posée d'ici juin 2024. En réaction, la société civile du territoire de Lukula, qui s'est réjouie de l'avancement des travaux sur cette voie, plaide pour la mise en place rapide du nouveau gouvernement pour qu'il programme la deuxième phase de ce projet. Nana Plurich Mambou.
La première phase de ces projets d'une durée d'une année consiste à asphalter 12 km de route partant de la cité de Manterne jusqu'à celle de Lemba dans le territoire de Lukula. Pour les délégués de l'Agence congolaise des grands travaux, les gros des travaux est déjà fait, il ne reste que le bitumage. Jean-Pierre Voulalo.
Nous sommes dans le délai. Il y a les travaux de la chaussée, l'assainissement, les billes ont été posées, on est en train de stabiliser au sol ciment et on est en train de mettre la monocouche et d'ici le 30 juin on aura asphalté.
Selon lui, le cahier des charges pour la deuxième phase de ces projets sera élaboré par le nouveau gouvernement. Elle va consister à asphalter 106 km de route partant de la cité de Lemba jusqu'au village Singini, en passant par la cité de Tchela et la construction d'une dizaine d'ouvrages tels que les ponts et autres. La société civile du territoire de Lukula, qui se réjouit, indique qu'après la réhabilitation de cette route, délabrée et abandonnée depuis plusieurs décennies, les commerçants et autres usagers seront soulagés. Mais en attendant, ces derniers éprouvent de sérieuses difficultés pour évacuer les produits agroalimentaires vers les centres de consommation. Rappelons que ces travaux sont exécutés par l'entreprise chinoise Sino Hydro dans le cadre du partenariat sino-congolais. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Actualité internationale. Nous sommes d'abord en Somalie. Plus de 37 000 élèves sont privés d'école à cause des inondations qui empêchent l'accès aux établissements, d'après les responsables de l'éducation nationale. En effet, la région de Hiran, au centre du pays, a été frappée par des pluies torrentielles. Les établissements scolaires se retrouvent submergés par les eaux, rendant les cours impossibles. Environ 27,6 millions de Sud-Africains doivent se rendre aux urnes demain mercredi pour élire leurs députés qui, à leur tour, désigneront le président de la République. Entre chômage explosif, corruption et coupure d'eau et électricité, l'ANC, le parti au pouvoir depuis 1994, a beaucoup à perdre.
L'invité.
Depuis le début de cette année, au moins 1500 personnes blessées lors des affrontements ont été reçues dans les cliniques où intervient l'organisation Médecins sans frontières, MSF, dans les provinces du Nord et Sud Kivu. Et pour le seul mois d'avril, 1700 nouveaux cas de victimes de violences sexuelles ont été enregistrés dans 3 sites au Nord Kivu. Des chiffres alarmants qui reflètent la détérioration de la situation sécuritaire dans la zone. Marie Brune, coordonnatrice des urgences chez Médecins sans frontières, présente ici la situation et appelle au respect du droit international humanitaire par toutes les parties. Elle s'entretient avec Rosalie Zawadi.
Marie Brun, bonjour.
Bonjour.
MSF note depuis quelques mois une nette détérioration de la situation sécuritaire avec des conséquences graves sur des populations civiles au Nord Kivu. Quels sont les faits?
Alors nous, on peut constater les conséquences en fait de la détérioration. Donc on constate une augmentation des violences, une augmentation des blessés qu'on reçoit. Et on constate aussi un impact et un entrave à l'assistance humanitaire parce qu'il y a des zones où on peut beaucoup moins accéder. Et des zones où on est obligé de suspendre nos activités parfois. Donc ça a un impact évidemment sur les bénéficiaires.
Et en parlant des chiffres, nombre de blessés, nombre de victimes de violences, quels sont les chiffres actuels depuis le début de l'année?
Alors depuis le début de l'année, en victimes de violences, on est en avril à 110 cas, nouveaux cas sur 8 sites par jour. Et sur le mois d'avril, sur 3 sites, on était à plus de 1700 cas. Pour le nombre de blessés depuis le début de l'année au Sud Kivu et au Nord Kivu, puisqu'on a vu une grosse détérioration aussi du côté de Minova, on est à environ 1500 blessés qui ont été reçus depuis le début de l'année.
Et pour les violences sexuelles, les 1700 cas, c'est juste pour le seul mois d'avril?
C'est juste pour le seul mois d'avril et c'est juste pour 3 sites.
Et dans cette situation, vous avez dû arrêter, suspendre les activités dans certains sites, lesquels?
Alors on a dû arrêter nos activités dans les sites qui sont à l'ouest de Goma plusieurs fois. On a dû suspendre nos activités. Donc étant donné que MSF est présent dans tous les sites à l'ouest de Goma, je ne vais pas citer tous les sites, mais ça nous est arrivé d'arrêter nos activités à Lushagala, ça nous est arrivé à Boulengo, à Elohim, à 8e CEPAC, à Chabindou, à Rosayo aussi. Voilà, donc on a souvent arrêté nos activités. Parfois, on a aussi commencé un peu plus tard ou réduit nos activités pour quand même essayer d'être présent et voilà, de réduire l'exposition de nos équipes, mais quand même pour essayer d'être présent pour les bénéficiaires.
Qu'est-ce que ça vous fait d'arriver à prendre la décision de réduire les activités ou de les arrêter?
Bah, c'est une décision qui est pas facile à prendre. C'est une décision très difficile parce qu'effectivement, quand on arrête nos activités, on sait forcément que ça a un impact sur les bénéficiaires. Mais on a aussi une responsabilité de ne pas exposer nos équipes et de réduire le risque au maximum pour nos équipes. Donc, on fait toujours, c'est toujours une décision, donc, comme je le disais, difficile à prendre. On fait toujours un risque, un bénéfice-risque. Et on finit par prendre une décision. Ça dépend aussi du type d'activité qu'on a. Donc si, par exemple, on a des activités en santé primaire, on sait que si on les arrête, ça a moins de conséquences que si on a des activités en santé secondaire, en faisant de la chirurgie ou des soins intensifs, par exemple.
Et aujourd'hui, quel est le message que vous adressez aux différentes parties afin de permettre que les populations en détresse soient assistées?
Alors le message qu'on adresse aujourd'hui, c'est on appelle effectivement à la protection des civils et au respect du droit humanitaire international, au respect des structures de santé, au respect des patients, du personnel médical, du personnel humanitaire et encore une fois à la protection des civils parce que ce sont des personnes qui ont échappé déjà qui sont partis de zones qui étaient très compliquées et ils se retrouvent maintenant encore dans des endroits où ils sont censés être protégés, dans des circonstances qui sont encore très compliquées pour eux.
Comment MSF perçoit la situation générale aujourd'hui?
Pour nous, effectivement, on ne voit pas une amélioration du contexte et donc c'est pour ça qu'MSF continue à avoir énormément d'équipes présentes sur le terrain et à continuer de déployer en fait des opérations un petit peu partout au Nord Kivu et au Sud Kivu. Tant qu'effectivement il y aura des besoins, on sera là, mais malheureusement, on n'a pas l'impression que les choses vont dans le bon sens.